Le Crétois.
C'est le journal de la vallée.
La vallée de la Drôme.
Et il paraît tous les vendredis.
C'est un hebdomadaire.
Et nous, à la radio.
Ça fait réole la radio.
Le journal, on le lit.
Pour vous.
Ça s'appelle Lecture du Crétois.
C'est toutes les semaines.
Et c'est maintenant.
Bonjour à toutes et à tous. C'est le moment de la lecture du journal Le Crétois du vendredi 6 mars 2026 sur Radio Saint-Ferréol 94.2. Autour de la table aujourd'hui, Brigitte, Martine, Marie-Hélène et moi Thierry, et à la technique, Béatrice.
Nous commençons par un entretien avec Hervé Mariton, ancien maire de Crêt. Il est des hommes et des femmes politiques qui ne laissent personne indifférent. Soit on les aime, soit on adore les détester. Ainsi en est-il d'Hervé Mariton, Les Républicains, maire de Crêt entre 1995 et 2024, conseiller régional de Rhône-Alpes de 1986 à 2002, député de la 3e circonscription de la Drôme de 1993 à 1997 et de 2002 à 2017, ou ministre de l'Outre-mer en 2007 pendant un mois et 18 jours. Ce curieux animal politique a forgé, au cours de sa longue carrière d'élu local, une vision originale et très personnelle de notre région. Alors qu'il s'apprête à céder définitivement son fauteuil de conseiller municipal à l'occasion des élections des 15 et 22 mars, Hervé Mariton a accepté de se prêter au jeu de l'entretien à bâton rompu avec le Crétois, avec lequel, pourtant, les relations n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Bilan de ses mandats, de son héritage politique et regard sur l'évolution institutionnelle de la vallée de la Drôme pendant les trois dernières décennies. Donc, nous allons le questionner. Que ferez-vous le lundi 23 mars au lendemain du second tour ?
Hervé Mariton, je me réjouirai de la victoire de Stéphanie Karcher et de Cray au cœur. Et si ce n'était pas le cas, je serais triste. Je poursuivrai les activités que j'ai par ailleurs, qui sont assez nombreuses, et je garderai cet attachement à Cray qu'avec les Crétois nous avons construit sur plus de 30 ans. Je continuerai d'essayer d'être utile de la manière dont je pourrais l'être. Il y a bien des manières de le faire, d'aider à ce que les choses avancent. Je reste engagé sur le plan national. Bruno Retailleux a été mon adjoint quand j'étais patron du projet à l'EMP. Aujourd'hui, je l'aide dans son projet.
Vous resterez vive à Cray ?
Je n'ai pas spécialement l'intention de quitter Cray. Mireille et moi, nos enfants et petits-enfants, nous y sommes très bien. Crétois, je suis, Crétois, je resterai. Être utile parce que je peux sans doute l'être du fait d'un certain nombre de connexions, mais je n'ai pas vocation à m'occuper de politique municipale.
Et que retiendrez-vous de votre engagement de 31 ans à Cray et dans la vallée de la Drôme ?
J'ai été élu maire à 36 ans. J'ai quitté la mairie, j'en avais 65. À 36 ans, on n'est pas un gamin. Mais malgré tout, j'ai envie de dire que la mairie m'a beaucoup fait mûrir. C'est un très bel engagement humain. J'ai beaucoup aimé l'attention qu'on doit avoir aux situations difficiles, aux personnes les plus simples. J'ai toujours été convaincu que l'élu qui a un peu de pouvoir, de capacité d'action, doit être attentif, en particulier aux situations les plus difficiles. C'est quelque chose qui n'a jamais vraiment aidé ma vie politique. À certains égards, je suis une sorte d'intellectuel perdu en politique. Je suis membre du comité de rédaction de la revue Commentaire, fondée par Raymond Aron, du comité de rédaction des Annales des Mines, de la Société d'économie politique. Mais à côté de ça, ce contact très direct avec les gens, j'y ai toujours pris un immense plaisir.
Un intellectuel perdu en politique, mais un homme politique tout de même. Vous avez su manœuvrer. Être élu député, conseiller régional, maire de Cray ?
Je suis assez mauvais en manœuvre politique, à faire des deals qui consistent à dire « Ici, c'est mon terrain, tu me le laisses et je ne t'embête pas dans le tien ». Ce genre de répartition des rôles qui a pu exister dans la Drôme, à droite, à gauche, moi, je n'ai jamais été là-dedans. Je suis un peu bovin. Ma culture, c'est celle du travail. Je ne suis pas très bon dans les manips, dans les manœuvres.
Mais vous avez aussi, localement par exemple, dans les intercommunalités, défendu des positions qui ont eu des conséquences concrètes et qui ne sont pas simplement des positionnements intellectuels.
Un exemple concret, en 2020, Denis Benoît, l'ancien président de la 3CPS, décédé en août 2025, est élu avec 20 voix contre 19 pour moi. Puis, je suis élu premier vice-président 2029. Oui, les voix 29. Il s'est passé quelque chose de curieux. L'intelligence que ni lui ni moi n'avons eue, c'est de dire « on arrête là et on se revoit demain ». La connerie, c'était de continuer.
Après votre élection, en 1995, vous n'avez pas été un fervent défenseur des intercommunalités de la vallée. Votre position a-t-elle évolué ?
L'histoire de l'interco sur le territoire est difficile. Depuis longtemps, cela remonte même avant que je ne sois maire. C'est Jean-Pierre Tabardel, mon prédécesseur, PS, note de l'auteur, qui se retire du DAVD, du district d'aménagement du Val-de-Drôme, l'ancêtre de la CCVD, après son élection en 1989. Il crée la communauté de communes du Crétois pour des raisons d'arrangement politique. En gros, la gauche de Blacon et d'Oust donnait le canton à Jean-Pierre Tabardel et Jean-Pierre Tabardel donnait l'interco à ses communes. Ça n'a d'ailleurs pas marché, car au cantonal de 1994, c'est Henri Hérault qui a gagné le canton de Cré Nord, soutenu par Hervé Mariton, note de l'auteur de l'article. Jean-Pierre Tabardel quitte ensuite la DAVD, constitue la CCC dans des conditions très minorées pour la ville de Cré. Puis, je suis élu maire en 1995. En 1995, on regarde à la CCC et on se rend compte qu'elle a très envie de beaucoup mettre à charge de Cré. À partir de là, la situation est celle qu'on a connue jusqu'en 2014. Le préfet Descharrières, de 2002 à 2004, avait bien essayé une reconfiguration intelligente des intercos. Livrons l'Oriol avec la Voulte et le Pouzin, réunis dans le cadre de la confluence, et une reconfiguration d'une interco correspondant au vrai bassin de vie de Cré. Cré aurait alors fonctionné avec la CCC plus la CCVD, moins Livron et l'Oriol. J'en serais été furieusement contre. Le préfet, malheureusement, s'est pris les pieds dans le tapis et se fait rétoquer par le tribunal administratif. Ça ne s'est pas fait, et c'est dommage. Car la vraie cohérence géographique, humaine et intellectuelle, elle est là.
En 2014, sous la contrainte de la ville de Cré, la CCC et la CCPS se rejoignent dans la 3CPS.
Pas sous la contrainte. Il fallait entrer dans une interco, mais la relation avec les municipalités d'Oust et de Laclastre était favorable sur le plan humain et sur le plan politique. Ça démarre bien. Et puis, ça s'enraye. Pas uniquement à cause de la piscine, le centre aquatique, mais aussi par le fonctionnement mécanique de la 3CPS. En effet, la CCC avait ses réserves financières, son magot, et toute une partie de la CCC n'a pas voulu véritablement jouer le jeu avec Cré.
Il est possible qu'après les élections, le schéma départemental de la coopération intercommunale soit révisé et qu'on redessine les cartes. Que défendriez-vous dans cette hypothèse ?
Je ne suis pas candidat. Le projet du préfet Descharrières reste d'évidence le meilleur. Avec le départ de Jean Serré et le mien, le débat part sur des bases nouvelles. Le maire de Livron également va changer. Je crois que Stéphanie Schkarcher est elle-même très favorable au redessin des cartes. Ensuite, la vie est faite de compromis. Les propositions de la liste avec sont assez nébuleuses sur ce sujet. La liste de gauche s'interdit parce qu'elle était aux affaires, d'avoir une analyse critique de l'interco. Et même si l'interco n'a pas fait que de mauvaises choses, elle n'a pas été à la hauteur sur beaucoup d'autres.
Vous avez transmis votre fauteuil de maire à Stéphanie Schkarcher avant la fin de la mandature en 2024. Pour autant, deux listes issues de la majorité sont candidates.
Il y a une liste très affirmée à gauche, jusqu'à une certaine radicalité, assumée par Madame Pochon, par exemple, qui est éligible sur la liste avec. Elle marque de manière très gauche-radicale cette liste d'une écologie qui louche vers LFI. Aux législatives, la circonscription devait revenir à LFI. Marie Pochon doit son élection à LFI. Madame Couidry, que je respecte, est complètement phagocytée.
Le principe d'une union, c'est que des gens qui ne sont pas d'accord sur tout s'allient au-delà de leurs différences. Ce n'est pas le cas du côté de la majorité sortante.
Est-ce que je suis inquiet ? La réponse est oui. Je suis très conscient que Max Tabardel, à la tête d'une liste droite et centre, est battu en 1989 parce qu'il y a une division de son camp avec la candidature de Michel Bruyat face à celle de Jean-Pierre Tabardel, qui remportera ce scrutin, dit la rédaction. En 2014, je me dis qu'il faut regarder comment la suite peut se préparer, car ces enjeux de transmission font partie de ma psychologie et de mon ADN. J'avais pu, à un moment, me poser la question de ma succession à l'égard d'Audrey Corneille. Mais, entre 2014 et 2020, j'ai été déçu par son manque d'investissement et de travail. J'ai considéré qu'elle n'avait pas la carrure. Avant 2024, je constate que Stéphanie Karcher fait un travail de très grande qualité comme première adjointe, qu'elle prend très bien sa place. Ce n'est pas un clone de Mariton, et c'est très bien. Je lui propose de devenir maire à ma place, elle l'accepte. Stéphanie a cherché à préserver l'unité en proposant à Audrey d'être conseillère déléguée, mais elle a considéré qu'elle ne pouvait pas lui proposer d'être adjointe. À partir de là, Audrey a décidé d'y aller. C'est aussi bête que ça, c'est une affaire très humaine et c'est très dommage. Les propos sont recueillis par Martin Chouraki.
Elsa Boucher, nouvel atout charme. Le magasin iconique de la rue République a une nouvelle gérante. Les férus de magasins de mode de qualité peuvent se rassurer. Non. Le magasin à tout charme n'est pas prêt de fermer ses portes. Il a simplement changé de main. Partie en retraite, l'ancienne gérante, Agnès Deville, a passé le flambeau le 18 février dernier à Elsa Boucher, 29 ans. « Je suis la cinquième génération à reprendre le magasin », se réjouit la jeune femme, dont le nom n'est pas inconnu des Crétois. « Je suis la fille de Dominique Boucher, qui tient les vergers de la tour à Eure. » J'ai grandi dans le commerce, entre les champs et le magasin de légumes. Le virus du commerce attrape donc, naturellement, Elsa Boucher, qui fait des études de marketing et de commerce, exerçant ses talents en Drôme. Reprendre à tout charme est tout sauf un hasard. Je voulais changer de vie, revenir à Cré. Je venais ici avec ma grand-mère, quand c'était Brigitte Pierre qui tenait le magasin. La nouvelle gérante promet une continuité dans l'offre, même si elle entreprit de mettre sa patte entre déco soignée et meubles de caisse conçus sur mesure par les meubles Bonnard. À tout charme, vous donne rendez-vous le 17 avril pour le pot de départ d'Agnès Deville à partir de 18h, en musique et avec un défilé à la clé. Et apéro, bien sûr, 100% concocté grâce au commerce de Cré et des environs. Article de Blandine Flippo.
Et maintenant, place à une tribune libre de Suzanne, Sarah, Tristan, Peter, Guillaume, Colette et Aurélien. Sécurité sociale de l'alimentation. Nous avons les moyens de faire mieux. Le réseau local d'action collective de la vallée de la Drôme, non provisoire, est un collectif de personnes au profit divers. Il est indépendant des autorités et des partis politiques. Au printemps 2025, nous avons fait un choix fort, consacrer une année entière à l'alimentation et œuvrer concrètement à la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation, dite SSA, dans la vallée de la Drôme. La SSA vise à garantir une juste rémunération à toutes les personnes travaillant dans l'alimentation et à garantir à chacun et chacune le droit à une alimentation variée, saine et respectueuse de l'environnement. Les politiques nationales actuelles obligent une partie de la population à recourir à l'aide alimentaire distribuée par les associations et les collectivités. Avec la SSA, nous avons les moyens de faire mieux. Ce projet repose sur les cotisations qui permettent que chacun et chacune contribue selon ses moyens. Il vise à faire de l'alimentation un droit fondamental, garanti par la solidarité entre toutes et tous, quel que soit son statut et son origine, au même titre que la santé, tout en favorisant une transformation profonde des modèles de production agricole et alimentaire. Nous souhaitons que le sujet de l'alimentation soit au cœur des programmes des listes des candidats aux élections municipales. Nous savons que certaines listes sont déjà force de proposition et nous savons que les communes peuvent agir sur le sujet. Les communes gèrent les CCAS qui distribuent parfois des chèques alimentaires aux ménages en difficulté ou peuvent soutenir financièrement l'ouverture d'un restaurant populaire. Dès 1946, la Sécurité sociale s'est initialement appuyée sur la création de caisses locales soutenues par les communes qui ont notamment facilité l'accès à des locaux. Chez nous, les communautés de communes du Diois et du Val-de-Drôme travaillent et soutiennent actuellement des projets d'expérimentation de caisses de l'alimentation. La communauté de communes de Dieulfy-Bourdeau soutient la caisse Alim, présentée comme une caisse mutualisée de l'alimentation, inspirée des idées de la SSA. Ce sont 136 foyers, soit 270 personnes, qui cotisent chaque mois à cette caisse et reçoivent 12 850 euros pour se procurer des produits alimentaires dans 33 points de vente, producteurs et productrices, magasins, etc. Le tout financé à 96% par les cotisations. Ces exemples nous donnent l'espoir que les communes de la vallée de la Drôme, la 3CPS et la CCVD se saisiront activement de ce sujet de la sécurité sociale de l'alimentation. Nous souhaitons pouvoir travailler avec les communes afin de faire vivre le projet de la sécurité sociale de l'alimentation dans la vallée de la Drôme et préparer la création d'une caisse. Nous nous mobilisons dès à présent en organisant des réunions publiques et en lançant des groupes de travail ouverts à toutes et à tous. Outils de communication, rencontres avec les acteurs du territoire, financement de la caisse, toutes les compétences et les bonnes volontés sont les bienvenues. Voilà, pour les contacter, écrivez-leur à la rla.vd@mailo.com. Donc voilà, tribune signée Suzanne, Sarah, Tristan, Peter, Guillaume, Colette et Aurélien.
Alors maintenant, on va vous annoncer un festival qui va durer tout le mois de mars. C'est un festival d'ateliers écologiques et sociaux qui revient encore cette année. Jusqu'au 30 mars, le festival Inventons Demain propose près de 30 ateliers participatifs à Cré, Oust et Die pour apprendre à faire ensemble, renforcer le pouvoir d'agir collectif et imaginer un futur désirable ici et maintenant. Après deux éditions couronnées de succès, le festival Inventons Demain poursuit son ambition. Fédérer les forces vives du territoire autour d'ateliers autogérés, accessibles et engagés, mêlant écologie, justice sociale et coopération. Cette année, une conviction forte guide la programmation. La transition écologique sera collective ou ne sera pas. Apprendre à faire ensemble, à débattre et à gérer des conflits sont plus que jamais des compétences indispensables pour inventer un monde plus soutenable. Cette année, Vincent Hermal reprend la coordination du festival, succédant à Paul-Henri Petit et Rémi Gondre. Impliqué depuis les débuts du projet, il souligne l'esprit du festival. Je cite « Ce cycle d'ateliers est pensé comme une impulsion pour initier des changements durables tout au long de l'année et de se retrouver un an après pour faire le bilan et aller plus loin. » Pour cette troisième édition, le festival investit à nouveau quatre lieux emblématiques. Archijeux et le 8 Fab Lab à Cré, l'AMJC Centre Social Ninichez à Oust-sur-Sie et l'Avant-Poste à Die. Pendant quatre semaines, près de 20 animatrices et animateurs proposeront bénévolement des ateliers aux habitants de la vallée pour mieux comprendre les enjeux à venir, créer du lien et passer à l'action collectivement. Après une approche ludique et participative, les ateliers visent à sensibiliser, débattre, créer du lien et inspirer l'action collective. Le festival bénéficie du soutien de la CAF de la Drôme, des Amis de la Terre Drôme et Vignette.eco, éditeurs de sites internet écologiques. Il est porté par la MJC Ninichez. Voilà, vous retrouvez tout le programme complet sur le site www.inventons-demain.fr. On poursuit avec la SCOP du Crétois. Le Crétois change de peau et garde son âme. Waouh ! Vous avez entre les mains la 12e maquette du journal Le Crétois. Et de 6538 numéros. Reprenez vos esprits, lecteurs et lectrices du Crétois. Le journal que vous tenez entre les mains est bien le même que celui que vous feuilletiez avec gourmandise la semaine passée. Ou presque. Son apparence change, vous l'avez remarqué. Son prix aussi, cela vous aura encore moins échappé. Son âme, en revanche, reste la même. Le Crétois demeure l'hebdomadaire de la vallée de la Drôme, toujours là pour vous raconter par le menu de notre actualité locale trépidante, pour vous donner les dernières nouvelles de nos villes et de nos villages, pour vous annoncer la foisonnante programmation culturelle qui anime notre territoire, pour vous offrir des espaces de libre exception, etc. La dernière fois que nous faisions peau neuve, en octobre 2018, nous vous expliquions qu'en transformant notre maquette, nous changions sans changer. Cette fois-ci, c'est un peu la même chose. Notre hebdomadaire, qui va bientôt fêter ses 126 printemps, s'est offert un toilettage bien mérité après avoir usé 8 années durant notre précédente maquette et pendant 15 ans notre désormais ancien logo. Grande nouveauté cette fois-ci, nous avons fait appel à un graphiste extérieur à notre équipe pour réaliser la refonte graphique du journal. Et pas n'importe lequel. C'est un ancien visiteur du soir du Crétois qui s'est chargé de rénover la maquette du journal et de créer son nouveau logo. Un graphiste qui a fait ses premiers pas dans le métier sur les ordinateurs du Crétois. Des machines que l'ancien patron du journal, Claude Bourde, laissait en libre accès aux jeunes créateurs et créatrices de la vallée. Arnaud Jariançon, puisque c'est de lui dont on parle, a, depuis cette époque reculée, créé l'atelier de création graphique Brest, dont la réputation n'est plus à faire, à créer et au-delà. Outre le talent et l'expertise d'Arnaud, il y avait une logique humaine à lui confier cette délicate mission. L'équipe du Crétois avait une idée simple. Nous voulions réviser notre maquette et notre logo en revisitant l'identité visuelle passée de notre journal. Qui de mieux qu'un vieil ami du Crétois pour réaliser cette mission ?
Nous nous sommes tous ensemble plongés dans les gigantesques archives du journal, croisant nos regards, nos métiers, nos émotions, nos mille raisons d'être attachés à ce journal local, pas comme les autres. Et c'est le résultat de cette recherche et de ce travail en commun que vous avez entre les mains. Passez la surprise que provoquera sans doute en vous la découverte du nouveau logo et de la nouvelle maquette du Crétois, nous espérons que vous retrouverez vite vos habitudes, que par-delà les nouvelles polices, les nouveaux folios, les grilles de pages et autres artefacts propres à l'édition de la presse que nous avons remis au goût du jour, vous retrouverez le Crétois que vous connaissiez jadis, celui qui, sous la plume de ses journalistes, de ses correspondantes, dans les villages et vallées, de ses chroniqueurs et chroniqueuses, de ses 1001 contributeurs et contributrices, vous propose toutes les semaines, depuis plus d'un siècle, un reflet en récit et en images de notre belle vallée. Par sa liberté de ton, son indépendance, son ouverture aux habitants, aux habitantes, le Crétois fait figure d'exception dans le petit monde de la presse locale. C'est pour financer cette précieuse indépendance que nous avons pris la décision d'augmenter le prix du journal. Nous espérons que vous en comprendrez la nécessité. Donc, bonne découverte, bonne lecture et à la semaine prochaine. C'est un article de la SCOP Le Crétois.
Et maintenant, place à la découverte musicale. Le Freak Show de Pendragon. Un des fondateurs et fer de lance du rock néo-progressif britannique, aux côtés de Marillion, héritier de groupes comme Pink Floyd et Genesis. Vous allez être saisi dès les premières notes de The Freak Show, la chanson d'aujourd'hui, par un riff de guitare spectaculaire et très puissant qui va déboucher sur un solo aérien du meilleur effet avant que la chanson ne commence réellement. Musique.
Voici le temps des annonces. Je commence par le quatrième colloque sur les plantes à parfum aromatique et médicinal. Cela aura lieu les 11, 12 et 13 mars au campus du Val-de-Drôme à Eure. L'objectif, renforcer le rôle des plantes à parfum aromatique et médicinal dans le parcours de soins. Et puis sur Cré, tant que ça chante, le dimanche 8 mars à 17h au Temple, Petite Femme, c'est un spectacle de la chorale Tant que ça chante avec 20 choristes, 2 musiciens et un conteur. Chifoumi, je vous en reparle, le numéro 1 de Chifoumi, nouvelle revue semestrielle crétoise, pointe son nez. Pour fêter ça, vernissage au Central Vapeur le 12 mars. Le 12 mars au Central Vapeur à partir de 18h. Une exposition à la Galerie Espace Liberté. Mémoire organique, c'est du 7 mars au 18 avril. C'est un dialogue entre la peintre plasticienne Natacha Bertin et la sculptrice céramiste Monica Picaflore. Le vernissage, c'est aujourd'hui à 18h. Concert, une main pour demain. Pour la Journée internationale du droit des femmes, la ville de Cré propose un concert gratuit, oui, le dimanche 8 mars à 20h30 à la Chapelle des Cordeliers. C'est un solo de violoncelle et chant avec Miroslava Tsipka. Et ensuite, nous sortons de Cré pour aller à Oust ou à la médiathèque. Une exposition de la terre sur les doigts pour raconter les jardins de la vallée. C'est des dessins, des photographies, de l'écriture et c'est jusqu'au 27 mars. À l'Élabo de Paulette, une soirée poétique avec Jacques Mourier et son spectacle Poésie et Zou. C'est le mardi 10 mars à 19h, le prix est libre. À Mirabel et Blacon, alors c'est tous les week-ends de mars. Le spectacle Le Grenier de Mirabel présente la comédie La représentation n'est pas annulée. C'est donc les trois week-ends de suite à la salle polyvalente les vendredis, samedis et dimanches. Après, nous passons à Alex, au phare, l'exposition de peinture de Marie-Pierre Buffelier. Ne bougez pas, je vous regarde. Jusqu'au 18 mars. Je tourne les pages et j'arrive à Puy-Saint-Martin, Journée internationale du droit des femmes. C'est le dimanche 8 mars à la salle des fêtes. Ensuite, on est à la page 10. Pas d'annonce particulière, mais nous arrivons à je vous en ai parlé. Une exposition. Le peintre sounien Romaric de Meyer expose à la bibliothèque de Sous jusqu'au 16 mai, tous les mercredis et samedis de 10h à midi. C'est une attention particulière donnée à la lumière qui traverse un paysage, une figure. Et puis, le printemps des poètes revient, c'est dimanche 8 mars, lecture de poésie en toute langue à l'atelier 8 à Cré. À 19h, pour déguster une soupe ou boire un verre, lecture à 20h. Les inscriptions se font en précisant la langue que vous voulez partager. Et je crois que j'ai terminé pour cette fois-ci. C'était la lecture du Crétois sur Radio Saint-Ferréol 94.2, avec aujourd'hui Brigitte, Martine, Marie-Hélène, Thierry et Béatrice pour la technique. Nous vous souhaitons une bonne semaine.
Le Crétois,
c'est le journal de la vallée.
La vallée de la Drôme.
Et il paraît tous les vendredis.
C'est un hebdomadaire.
Et nous, à la radio.
Saint-Ferréol, la radio.
Le journal, on le lit.
Pour vous.
Ça s'appelle Lecture du Crétois.
Et pour cette semaine.
C'est fini.